Souvent, l'on cherche à se représenter visuellement les arcanes de la mémoire. Comment on accède à tel souvenir? Comment celui-ci revient sans s'annoncer? Comment tout est transformé, ou presque, mais ne perd pas pour autant un sentiment d'exactitude? Dans votre dernier livre, Mathieu Lindon, on ouvre, l'un après l'autre, des sortes de dossiers, des enveloppes, beaucoup de lettres, beaucoup de mots, dont la majorité sont posthumes, car votre père, Jérôme Lindon, éditeur mythique des éditions de Minuit, est mort en 2001, et avec lui, avant lui, Samuel Beckett, Marguerite Duras, Claude Simon, et après lui, Paul Otchakowski-Laurence, qui fut le vôtre d'éditeur, car c'est aussi la question. C'est un long chemin qu'il a fallu pour écrire ces pages, qui en empruntent mille et semblent en tracer un, sans jamais se perdre. Ce qui, dans ce que j'écris au long de ce texte, tient lieu de roman, n'est pas tant les faits que leur interprétation, ça ce sont vos mots, et cela vaut pour le romanesque comme pour les archives, tout dépend de comment on les ouvre. Une archive paraît en cette rentrée littéraire, c'est un livre très beau. Il est paru aux éditions POL. Bonsoir Mathieu Lindon.
Bonsoir et merci.
Il m'a beaucoup ému. Et par exemple, ce passage où il est justement question de radio et de chemin. Jérôme a un transistor pour ne pas rater les informations. Un matin, je le croise dans le couloir devant la salle de bain. Passe une chanson à la radio, juste avant le flash, peut-être est-ce ma radio, j'adore les variétés françaises. Joe Dassin chante « Le chemin de papa ». Ça doit donc se passer l'été 1969, je viens d'avoir 14 ans, ou vais les avoir incessamment. Ça l'amuse que les syllabes « papa-papa », qu'on dit pour marquer le rythme d'une chanson, ou quand on ne se souvient pas des paroles, trouvent dans le refrain leur place exacte. Comme si c'était elle qui créait le rythme, ou que les paroles qu'on croyait avoir oubliées étaient les bonnes. Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa. Comme c'est fatigant d'aller là où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et je me dis qu'il a toujours quelque chose à dire que d'autres ne diraient pas. Et que c'est curieux que ce soit sur ça qu'il s'arrête dans cette chanson. Que ce soit ce que ces syllabes lui évoquent devant moi. Ça me fait plaisir, mais c'est curieux. Parce que dans la famille, on ne les prononce jamais. À part peut-être lui, quand il parle à son père, mais nous, les enfants, on ne dit jamais « papa ». Ou peut-être quand on a oublié les paroles d'une chanson, ou qu'on essaie de recréer un rythme oublié. Le dit-il pour montrer qu'il n'a pas la moindre gêne avec ça, ce silence, cette absence, ou parce qu'il n'a pas la moindre gêne? La question est d'aujourd'hui. Il avait cette capacité de désamorcer des choses que par ailleurs souvent il aimait amorcer. Cette capacité à habiter et à ne pas habiter à la fois une position. Quand mon homosexualité fut patente, il m'a dit avoir raconté à ses parents que parfois, des hommes ne se rendaient compte qu'ils étaient homosexuels que quinquagénaires. Et il ajouta en souriant que mes grands-parents l'avaient alors regardé comme si c'était son cas. Cet ajout dans le récit ne servant qu'à ce qu'il n'y ait pas de doute dans mon esprit. Ou au contraire, ça en créa un. Je l'ai raconté à Hervé, qui leva les yeux au ciel à l'idée que mon père soit gay tant son goût pour les femmes était l'évidence. Il était long, son chemin. Et sans doute aurait-il aimé qu'il soit moins loin de nous. Il nous l'offrait, son chemin. Comme dans ses promenades, où je fus si fière de l'accompagner, avant d'en être rassasiée et de regretter aujourd'hui de l'en avoir privé, et de m'en être privée, alors qu'en d'autres temps, j'y avais vu tant de charme. Bon, j'aurais pu choisir plein de chemins dans ce livre-là, une archive, mais il y a tout ce que j'aime dans celui-ci, je crois, des couloirs, une radio, de la chanson française, de la variété et quelque chose de l'errance ou du vagabondage, parce que vraiment, en termes de structure, de paragraphe, peut-être avant même de s'attaquer aux émotions, aux souvenirs, à la filiation, il y a quelque chose dans ce texte qui trouve toujours son chemin. Alors je me suis dit, comment ça s'est passé pour vous, Mathieu Lindon ?
Ça a pris du temps, moi, pour trouver mon chemin à l'intérieur de ce livre. Et Et d'abord, pour comprendre que c'était ce livre-là que je voulais faire, j'ai commencé longtemps par travailler sur un texte de fiction, que je croyais de fiction, dont je parle dans le livre en définitive, parce qu'il en reste des bouts, parce qu'il en reste des choses qui décrivent mon rapport avec mon père, sans que je l'ai su au moment où je l'écrivais, sans que ce soit du tout le but quand je l'écrivais. Et c'est un texte que j'ai écrit très difficilement, qui est inachevé, mais qui est maintenant achevé, puisque...
Il y a quelques scories dans ce texte-là, en tout cas.
Enfin, il est achevé comme on achevait bien les chevaux. En tout cas, le voilà là. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire quelque chose à partir des auteurs des éditions de Minuit, de quand j'étais petit surtout. J'en parlais dans Ce qu'aimer veut dire, où je parlais de ma relation avec Michel Foucault et de mon père aussi. Et de dire, c'est vrai, j'avais envie de dire des choses, d'écrire des choses autour de Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Claude Simon, Robert Pinget, à l'époque de quand j'étais enfant, fût-ce ensuite, c'est pas exactement pareil pour Jean Echenoz ou Jean-Philippe Toussaint, qui sont une génération après, mais quelle que soit mon admiration à moi, mais c'est des auteurs que j'ai pu lire de façon contemporaine, alors que Beckett, Duras, Corbrier, Simon Pinget, j'ai su que c'était des grands écrivains avant d'en avoir lu une ligne, on m'avait bien expliqué. Et je trouvais qu'il y aurait une générosité à faire partager des choses que j'avais, que je savais, qui seront perdues quand je serai mort, aux lecteurs de ces auteurs-là. Bon, mais à la fois, la générosité est toujours un mobile un peu sournois. Enfin,
il se dévoile sournois parfois.
Oui,
on peut voir le mobile apparaître.
Je suis parti avec cette idée, puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. De la même manière que j'avais écrit Hervé Lino autour d'Hervé Guibert en me disant c'est pour aussi, ça intéressera les gens qui travaillent sur Hervé Guibert, et tant mieux si ça les intéresse, mais bon, c'est pas ça que j'ai voulu faire quand même. Que je disais, c'était plus sur l'amitié pour Hervé Guibert et là, pour Hervé Lino, et là, c'est en fait un livre sur la paternité et la filiation, je crois.
Et dans tous les sens, si je peux me permettre de vous arrêter là pour préciser, parce que évidemment il est question de la paternité, de la filiation, si on prend simplement le couple que forment Jérôme Lindon et Mathieu Lindon et que dont vous racontez. Mais il est aussi question de son autre fils, de votre frère. Il est question des petits enfants de Jérôme Lindon, de son aspiration à être grand-père en ne l'étant pas complètement, car il en est privé par une brouille familiale. Il est vraiment question de ce que c'est que d'avoir des enfants et ce que c'est que de leur ouvrir ou pas le chemin, et c'est pour ça que l'extrait me touche tant, c'est que vous parlez de ces promenades-là, mais comme étant une possible métaphore de ce que c'est que d'être dans la vie avec des gens qui vont nous succéder.
Oui, de ma sœur lui a succédé de fait, et le rapport qu'il a pu avoir avec les auteurs n'étaient pas de paternité, mais certains l'ont voulu. Hervé Guibert raconte comme mon père lui dit un jour, mais je suis pas votre père, quoi, quand il lui parle, et lui-même n'a pas considéré Samuel Beckett comme son père, mais peut-être que ça m'aurait pu l'aider parfois, mais je suis pas ton père, quoi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à la question, après tout ce vagabondage que je viens de faire, oui, j'ai eu envie de raconter ça, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, je savais pas comment le faire pendant des siècles, disons des années, et je voulais pas que ce soit un recueil d'anecdotes ou de quelque chose comme ça. Je trouvais pas le ton. C'est ça que je dis dans Ce qu'aimer veut dire. Et puis, un des premiers lecteurs m'a dit, et ça m'a touché comme un auteur d'édition m'a dit, vous l'avez trouvé le ton. Et maintenant, vous savez comment faire. Et ça m'a touché parce que j'espère que oui. Donc, oui, c'est une façon de parler de mon père, de moi, parce que c'est de là que j'en parle, et puis de tous ces auteurs, de cette génération qui pour moi était mythique, comme je dis, qui était des écrivains avant que je les ai lus, et puis à partir de Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint, sans compter... Jean-Philippe Toussaint, déjà, c'est le premier qui est plus jeune que moi, ce qui est un changement. Et il y a Hervé Guibert et Eugène Savitskaya, mais Hervé Guibert et Eugène Savitskaya sont aussi arrivés par la revue Minuit, dont je m'occupais, qui ont été des amis et sont des amis proches, donc c'est une autre affaire. Mais...
Et ce faisant, vous parlez par exemple de l'appartement où vous avez grandi, vous parlez de meubles, de pièces, de soirées, de dîners dans la cuisine, de regards de votre père ou de mots de votre père qui rentrent. En fait, vous parlez de votre enfance, Mathieu Lindon, en se demandant comment c'est possible de le faire après être passé par l'idée qu'une façon de le faire, ce serait de parler des éditions de Minuit et d'être soi-même une archive d'un temps littéraire voilà, très important. Mais en fait, votre grande question, c'est plutôt comment on est une archive de soi-même.
Absolument. Puisque je voulais parler de comment je voyais les choses enfant, c'est-à-dire comment on me racontait les choses, comment je ressentais les choses, qu'est-ce que c'était que les éditions de Minuit pour moi quand j'étais petit. Et donc, oui, l'ambition, c'est d'être une archive aussi de l'enfant que j'étais. C'est d'être aussi une archive des éditions, parce que je commence en parlant d'une éventuelle biographie de mon père, que plusieurs personnes ont voulu la faire. Ça a toujours échoué parce que ma sœur n'a pas voulu leur donner l'accès aux archives proprement dites des éditions, les correspondances, ce que je comprends tout à fait. Et puis vient un moment où moi je me dis, mais moi je m'en fiche des archives des éditions. Je suis une archive à moi tout seul, quoi. Et ça m'a amusé amusé n'est pas le mot, même parce que ça m'a touché, je sais pas, donner ce titre, parce que c'est une vision de soi très particulière, de se voir comme une archive. Parce que l'archive du titre, c'est moi, quand même, et j'essaye de parler de tout ce que, comme je dis, qui pouvait intéresser les gens qui s'intéressent à des auteurs au prestige maintenant gigantesque, et puis, comment dire, aux gens qui s'intéressent à ce que c'est que d'avoir un père ou que d'avoir un fils, quoi. Ça, c'est un public plus large d'une certaine manière, je crois.
Le père, donc, car nous avons aussi des archives.
Vous savez, Samuel Beckett est un homme, dont je n'aime pas parler parce que je sais à quel point il déteste qu'on parle de lui. Mais c'est un homme pour qui j'ai non seulement une très très grande admiration, mais beaucoup plus que ça, beaucoup d'affection. Et Samuel Beckett est un homme que je trouve tout à fait admirable et qui ne s'occupait même pas de ses textes. C'est même pas lui qui les a montrés à des éditeurs. Il a laissé des amis à lui et sa femme l'apporter. Et c'est comme ça que j'ai eu le texte par par Suzanne Beckett qui me l'a apporté. Et puis, c'était le matin, j'ai emporté le texte pour lire chez moi dans le métro. Je me rappelle très bien le moment où j'ai commencé de lire le texte. Quand je suis revenu après le déjeuner, j'avais déjà lu une bonne partie du texte et j'ai naturellement pris contact. Enfin, j'ai écrit tout de suite à Samuel Beckett pour lui dire que je serais très très heureux, honoré, enfin, si je pouvais publier ce livre. Et Samuel Beckett n'est même pas venu me voir parce que c'est quelqu'un de très réservé, au fond très timide. Non. Et puis, il y a une anecdote que je raconte, je ne devrais pas, mais l'ayant déjà racontée, je peux considérer qu'elle n'est plus aujourd'hui protégée par le secret. Mais finalement, le contrat a été signé, le livre a été mis en fabrication, et puis quelques 15 jours avant la sortie, Suzanne Beckett a dit à Sam, tu devrais aller voir peut-être Lindon tout de même avant qu'il sorte le livre, ce serait plus gentil. Sam est venu voir, et nous avons parlé, je n'ai plus le moindre souvenir de notre conversation, nous étions sans doute aussi intimidés l'un que l'autre, et il est rentré chez lui et avec une figure très sombre, et Suzanne lui a dit, tu as vu Lindon? Et, oui. Et tu ne l'as pas trouvé sympathique? Et Sam m'a dit, si justement, quand je pense que ce type va faire faillite à cause de moi.
Les récits représentant la bonté de Jérôme sont quasi légendaires. Ils nous sont inaccessibles, à nous les enfants et même à notre mère. Légendaires mais bien réels. Il en a deux, l'un familial et l'autre personnel. Le personnel est sa rencontre, littéraire puis en chair, en os et en affection, en admiration et en dévouement, avec Samuel Beckett. On a appris à les considérer, son œuvre et lui, comme au-dessus du monde habituel. Ils sont des miracles dont on ne peut qu'être fier de profiter de la proximité. Son génie littéraire ne suffit pas à définir Sam. Sa gentillesse aussi est légendaire et réelle. La façon dont il s'est toujours conduit avec nous a tout pour susciter admiration et affection. C'est comme si Jérôme avait eu pour lui un coup de foudre littéraire et humain, avait immédiatement reconnu en lui un écrivain de génie et des qualités personnelles à la même hauteur. Une archive de 1986 dans l'émission Agora, c'est la voix de Jérôme Lindon, et juste après, un petit morceau de votre texte, Mathieu Lindon, une archive, où il est question de Sam, de cette admiration, de cet amour, peut-être de tous les auteurs des éditions de Minuit que vous évoquez dans ce livre-là, c'est le plus présent, ou en tout cas ça a été le plus saillant dans ma lecture, je ne sais pas s'il est quantitativement le plus présent, mais il est le plus présent comme ça, en amour. On entendait la voix de Jérôme Lindon... presque courir après les mots pour dire ça, pour dire cette découverte, ce coup de foudre littéraire pour Beckett.
Oui, ça a été le grand événement de sa vie d'éditeur, et au-delà de sa vie, je pense, un des grands événements de sa vie. Il adorait ça, mais je pense que la relation était très puissante dans les deux sens. Et on le sentait, je pense, nous, les enfants, on a appris à le savoir tout de suite. Et c'est vrai qu'il était, dans l'esprit de mon père, il était au-dessus de tout, au-dessus d'un point de vue humain, d'un point de vue littéraire, ce qui n'était pas sans, comme je le développe là, je m'en étais jamais rendu compte avant, ce qui n'était pas sans poser un problème. Mon père est né en 1925, il a repris les éditions très jeune à 23 ans en 48, il doit rencontrer Beckett en 49 ou 50. Donc il est très jeune.
Début fracassant, quoi.
Oui, début fracassant. Et donc, ce qui le met aussi dans une sorte, disais-je, de double bind, parce qu'il a mis immédiatement Samuel Beckett tellement haut qu'il n'y avait plus l'espoir de retrouver quelqu'un de cette envergure tout au long du reste de sa vie. Et non seulement, je crois, il n'y avait pas l'espoir, mais à tous les sens du terme, il ne le souhaitait pas, parce que ça aurait été d'une certaine manière diminuer Samuel Beckett à ses yeux, que d'imaginer qu'il puisse avoir un égal, quoi. Il était au-dessus de tout, mais il s'est arrivé tellement jeune que, mais si ce n'est que ce qu'il a pu faire jusqu'à la mort de Sam à Noël 89, quoi. Donc c'est quand même une relation qui a duré une quarantaine d'années. C'est de profiter de cette relation, de l'approfondir, et puis je pense qu'elle lui a apporté énormément.
Et alors évidemment, peut-être c'est particulier quand on parle de Samuel Beckett, mais néanmoins c'est aussi quelque chose que vous creusez, Mathieu Lindon. On a dit tout à l'heure ce que c'est qu'être un père, ce que c'est qu'avoir des fils, éventuellement des petits-fils, ce que c'est qu'avoir un père. Mais il y a aussi ce que c'est qu'être éditeur, et ce que c'est qu'avoir un éditeur, ce que c'est qu'être un auteur qui a un éditeur. Alors là, vous parlez de cette relation singulière entre Jérôme Lindon et Samuel Beckett, mais... Il est question de votre place à vous lorsque vous commencez à écrire dans un monde où il n'y a que des auteurs et un éditeur. Il est question de Paul Tchaïkovski-Laurence, puisque la question de ce que c'est que l'amitié si particulière qui naît entre des personnes qui vivent en fabriquant des textes, c'est assez difficile à mettre en mots. Et ça apparaît là. La mort de P.O.L. et sa présence apparaît dans ce livre qui, comme je le disais, emprunte mille chemins, donc celui-là aussi.
Oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, je pensais, il y avait une seule maison d'édition pour moi, c'était les éditions de Minuit. Je pensais que tous les autres éditeurs étaient un ramassis de crétins incapables. Ce qui était conforté par ce que je comprenais de la conversation familiale quand j'étais jeune, et par le catalogue des éditions de Minuit qui était quand même fait de tous les auteurs que les grandes maisons avaient envoyés au diable. Et puis, il y a eu des histoires pour que je publie mon premier roman chez Poel. Il a fallu que qu'Alain Robbe-Grillet, à qui mon père avait envoyé anonymement le manuscrit, le défende pour que mon père se résolve à le publier. J'avais dû le publier sous pseudonyme malgré moi. Et quand pour le
Donc là,
deuxième...
c'est chez Minuit, hein.
Chez Minuit. Et quand pour le deuxième, il a voulu que je le publie encore sous pseudonyme, je me suis dit, c'est quand même une situation grotesque de publier sous pseudonyme malgré soi. Et donc, je l'avais proposé à Paul Tchaïkovski-Laurence. Et puis, à partir de là, c'est avec avec Paul Tchaïkovski-Laurence que j'ai eu une relation d'éditeur qui, à ma mesure, s'est approfondie considérablement. Et c'est vrai qu'à sa mort, le 2 janvier 2018... Parce que je me disais ça, il y a 5 personnes dans ma vie dont je sais la date de la mort. C'était mes amis Michel Foucault, parce que j'étais proche, Hervé Guibert, parce que j'étais proche chronologiquement, mon père, ma mère et Paul Tchaïkovski-Laurence. Et à sa mort, Emmanuel Bayamaktam, qu'on s'était retrouvé au siège de la maison, parce que les auteurs de la maison passaient là.
PEL,
oui, qui est aussi publié par PEL, m'a dit un jour, je me rendais pas compte de la place qu'il occupait dans mon espace mental. Et je me suis dit, moi non plus, c'est exact, ça met des mots sur ce que je ressens. Et c'était une façon aussi de parler, ça m'a aidé à parler de l'édition. Je crois que je suis un auteur particulier dans la mesure où j'ai toujours eu un certain respect pour les éditeurs plus grands que d'autres. Je veux dire, ça m'a évité beaucoup de paranoïa, comme les gens disent, et moi, on s'occupe pas de mon livre. Non. Je me disais, les éditeurs, ils prennent un livre, ils s'occupent du livre, ensuite je les laisse faire, je me mêle pas.
Est-ce qu'en miroir, cette amitié profonde, longue, tissée de textes avec Paul Tchaïkovski-Laurence, pouvait permettre de saisir mieux ce qu'était votre père dans le monde? Puisque ce que faisait, ce dont s'occupait votre père, sans aucune comparaison, la question n'est pas là, mais... ils avaient le même métier. Est-ce que ça permettait de mieux saisir le mystère de Jérôme Lindon s'il y en avait un?
Je ne me rends pas compte. C'est-à-dire que une chose que je trouve très particulière dans le cas de mon père, c'est qu'il ait pu être cet éditeur tous azimuts, si j'ose dire. Il a repris une maison dont la gloire n'était pas à proprement parler littéraire. Elle venait de ce que... pendant la guerre, c'était le seul éditeur qui n'avait pas collaboré, d'où ce nom d'édition de Minuit, Minuit signifiant la clandestinité. Vercors, qui avait créé la maison, qui avait écrit Le silence de la merle, qui l'avait publié aux éditions, qui était le succès de la maison, n'était pas un homme d'affaires, n'était pas un éditeur. Donc tous les auteurs de renom, Éluard, Aragon, qui étaient venus pendant la guerre parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, sont repartis après la guerre et la maison était en situation de faillite. C'est comme ça que mon père a pu... en devenir l'actionnaire principal, le propriétaire. Mais il y a eu donc très vite Samuel Beckett et Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Marguerite Duras et Robert Pinchet. Mais il y a eu très vite aussi la guerre d'Algérie. Ça veut dire que c'est aussi la question, l'affaire Audin, la gangrène, les livres autour de la torture en Algérie, le plasticage de l'appartement, l'incendie des éditions, toutes les procès à l'appel. Il y a eu ensuite il s'est passionné et surtout il s'est démené dans le combat pour les Palestiniens après la guerre de 1967. Il y a eu ensuite les autres générations entamées, surtout il y a eu Monique Wittig et Tony Dever dans les années 60, mais ensuite à la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu, comme on disait, Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Pierre-Hervé Guibert, Eugène Savitskaya, qui me sont spécialement
chers,
oui, personnellement, indépendamment de l'œuvre qui m'est proche aussi. Et avant toute la génération de Laurent Mauvignier, Tanguy Viel, après, mais qui, comme je vous disais, pour le coup, c'est des auteurs plus jeunes que moi, donc le rapport que je peux avoir est très différent, on relève plus du tout de la même mythologie que ceux du début dont on m'expliquait qu'ils étaient des écrivains, je disais. Et parfois, je n'y comprenais rien. Je faisais la comparaison avec le petit Nicolas, parce que je me disais, à la fois quand il venait, on me disait c'est un génie et tout, et moi je me disais, mais c'est comme quand le papa du petit Nicolas invite son patron et qu'il faut que l'enfant fasse pas de bêtises, et moi je me disais, il faut pas que je fasse pas de bêtises.
Quand Samuel Beckett venait à la maison?
Oui, et en plus je me disais, j'avais un truc, c'est que mon audition n'a jamais été parfaite, et Samuel Beckett avait un tel accent que souvent je me disais, c'est pas possible.
Je crois rien.
Oui, comment quelqu'un qui parle comme ça peut être un grand écrivain, quoi. Même si je savais que c'était mieux de pas le dire, quoi. Mais oui, je trouve que ça m'intéresse de dire ça parce que c'est comme s'il y avait des tonnes de prestige que signifiaient tous ces prix Nobel, Beckett, Simon, Duras, Robbe-Grillet, Pinget, toute cette valeur. Et puis il y a un côté chez un enfant avec, je sais pas, la vivacité et le manque de vivacité d'un enfant, quoi.
Chance, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort.
Écoutez France Culture, Par les temps qui courent, ce soir avec
Mathieu Lindon.
Maintenant disparu, toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de cet amour-là, de cet amour mort. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.
Je crois que l'historien se fait probablement des illusions là-dessus. D'ailleurs. Mais le sentiment que quand il est devant des journaux de l'époque, devant des archives, un rapport de commissaire de police, Dieu sait si j'en ai manié, parce que les commissaires de police sont ceux qui racontent les grèves, il a l'impression qu'il est en contact direct avec l'actualité sur laquelle il veut travailler, que c'est moins médiatisé que par le roman. Parce que le romancier, surtout si c'est un grand romancier, comme Balzac ou Zola, ils construisent leur objet, et c'est un objet d'art, et ils ne livrent jamais leur matière brute. Tandis que l'historien pense qu'il peut saisir la matière brute. Je crois que c'est ça qui fait l'attrait de ce qu'on appelle les archives.
Une archive, c'est le titre de votre livre, Mathieu Lindon, et on écoutait là la voix de l'historienne Michèle Perrault dans un des entretiens à voix nue qu'elle a donné pour France Culture en 1990. tout au long du roman, et même dans l'idée que cela puisse être un roman, vous interrogez ce que c'est qu'une archive. Donc, on le disait tout à l'heure, être l'archive de soi-même, comment atteindre des sensations d'enfance, par quelles traces, mais aussi ce que c'est qu'un père qui en gardait ou quel usage il en faisait. Et à bien des égards, l'archive a aussi un statut de pièce à conviction qu'on utilise ou pas, de preuve, éventuellement de preuve à charge. Et donc, c'est aussi une autre couleur que vous donnez pour décrire Jérôme Lindon ou pour décrire les différents usages que l'on peut faire des documents de mémoire.
Oui, dans mon esprit, il faisait ça, de garder les choses, d'avoir toujours
du un truc sous la main.
Oui, quelque chose sous la main. Et le, même si c'est très présent, et je pense que je suis persuadé qu'il avait ça. Je cite une phrase qu'un ami me redit de Pierre Bourdieu quand mon père et Pierre Bourdieu se fâchent et que Pierre Bourdieu dit à Didier, j'ai reçu aujourd'hui une lettre de Jérôme Lindon, mais cette lettre ne m'est pas adressée, elle est adressée à ses archives.
Incroyable,
et j'ai
cette
pensé
phrase.
Que c'était vrai. Oui. Et j'ai pensé que c'était vrai parce que j'ai pu le voir dans la vie personnel, quand je lui avais donné mon premier livre, j'avais mis un mot à côté et j'ai vu l'usage qui avait pu en être fait. Mon premier livre qui était presque un livre à charge aussi contre, enfin, qui voulait voir jusqu'où il pouvait aller et que, bon. En tout cas, on était passé par une dispute dont je pense qu'on n'aurait pas pu faire l'économie. Mais je crois qu'il avait en effet la volonté d'avoir toujours des archives, même si je dis à la fin, et je trouve que c'est vrai aussi, parce que c'est ça aussi, être éditeur, de dire, il avait tout ça, mais en fait, il s'en servait jamais, parce que c'est ça, à la fois être éditeur, c'est être au service des auteurs, et comprendre que les auteurs puissent en être mécontents du service, même si c'est injuste, mais il faut le supporter, et il va pas répondre dans la presse à un auteur qui se répand dans la presse, parce que lui, il est pas là pour ça. Si l'auteur est mécontent, c'est aussi de sa faute, même si c'est pas de sa faute, je sais pas comment.
Mais vous
dire.
Écrivez aussi à la fin, Mathieu Lindon, qu'en gros, il faut être archivé, mais pas trop. C'est pas vos mots, hein, mais c'est plus,
oui,
c'est,
oui.
C'est plus précis que ça. Ça raconte aussi cette façon d'en avoir sous la main, pas que une méfiance à l'égard de l'avenir, pas que quelque chose que vous pouvez qualifier parfois d'éventuelle manipulation ou de soupçon de stratégie. Ça raconte aussi un rapport au secret, au continent noir, au minuit, quoi. C'est-à-dire que vous faites aussi le portrait d'un homme dont on ne savait pas tout. Et dont même toute archive ouverte, on continuera de ne pas tout savoir.
Oui, je pourrais dire deux choses sur ça, dont une que à laquelle je réfléchis pour la première fois. Un, mais c'est la deuxième. La première, c'est que je trouve très mystérieux et très curieux que les historiens fassent des archives aujourd'hui le même usage qu'il faisait il y a un siècle, quand les gens n'imaginaient pas du tout qu'on puisse s'en servir, alors qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'on va s'en servir. Alors, on peut pas les considérer pareillement, il me semble. La deuxième...
Elles sont moins innocentes.
Elles sont moins innocentes. Et puis, elles sont souvent sélectionnées. Il faut attention, on déchire des choses, on en garde d'autres. On écrit une lettre juste pour qu'elle soit dans les archives. La deuxième chose dont je me rends compte par votre question, mais qui me semble juste, que je regrette de ne pas avoir mis dans le livre, et merci, c'est que ça tombait bien que mon père il soit directeur des éditions de Minuit. Ça lui allait bien, ce nom Minuit. En effet, il y avait quelque chose, le continent noir, l'ombre, quelque chose de la nuit, toujours, et d'une clandestinité. C'était plus la clandestinité de la guerre de 40, mais il y a toujours eu
mais dans son
quelque
intimité,
chose de clandestin.
Y compris donc, dans la pudeur aussi, vous racontez
dans
les
la
mots
pudeur
qui ne sont
aussi.
Pas dits. C'est aussi des façons d'avancer en clandestinité avec le langage ou d'envoyer des tonnes de lettres à un petit-fils qui ne les recevra pas ou plus tard. Enfin,
quand lui sera mort, oui.
Oui, il y a quelque chose de l'adresse sans adresser qui est beaucoup développé dans ce texte-là.
Et des choses que je trouve bouleversantes quand il est... Quand il est jeune homme, il va pendant la guerre dans un maquis juif où il se trouve qu'il a un ami et puis ils sont séparés un jour d'opération et puis ils vont à la recherche de cet ami et c'est lui qui le trouve. qui trouve son corps mort. Et il raconte ça, et il termine... En fait, il ne me l'a jamais raconté à moi, je pense qu'il ne l'a raconté non plus jamais, ni à mon frère, ni à ma sœur. Et c'est l'amicale de ce maquis qui lui demande ce texte en 1995, pour le cinquantenaire, et il raconte enfin... ces pages, donc il raconte cette histoire. Il est mort en 2001, mon père. Ça, c'est en 95. Et je ne lis ce texte qu'après sa mort. Donc même une fois écrit, il ne m'en a jamais parlé. Je me répète. Mais le texte se termine par « Il a fallu 50 ans et votre insistance pour que j'écrive ces mots. » Comme je dis dans le livre, cette archive-là, je m'en fiche pas du tout. Je ne sais pas, je trouve ça bouleversant. C'est ce qu'il allait écrire. Il avait écrit dans les années 60 des petits romans sous pseudonyme aux éditions de Minuit que moi, j'ai pas trouvé flambant, en vérité. Mais ça, j'ai trouvé ça bouleversant. Tout le texte qu'il écrit est bouleversant. Je trouve bouleversant qu'en effet, il écrive des lettres à son petit-fils qu'il ne voit pas.
Quelle histoire incroyable.
Il constitue des archives où il y a quelque chose d'hyper romanesque et d'une grande tristesse. Mais il en a souffert, c'est sûr, énormément. Mais il a été cet écrivain-là.
De Minuit, quoi. C'est vraiment l'écrivain de Minuit. Non, mais c'est au plus profond du terme. C'est aussi la trace qu'on laisse sans trop le dire, en espérant qu'elle sera ouverte.
En espérant, pour les lettres, influer. C'est une archive dont l'ambition est d'influer sur quelque chose. C'est une archive qui n'a de sens que dans l'avenir. Qui, normalement, c'est pas comme ça qu'elle se constitue. Il lègue quelque chose à son petit-fils pour lui dire sa version de l'histoire que son père lui aura racontée. Je pense qu'il y a quand même ça qui joue énormément. C'est tellement touchant. Je sais pas. Et je sais pas ce que sa pudeur a pu faire, parce que je pense qu'il était très timide. Moi, je suis très timide aussi. Et donc, sans doute, on ne s'est pas beaucoup parlé de choses affectueuses, mais moi, qui suis toujours prêt à soupçonner les choses les plus épouvantables, enfin, qu'on me considère d'une manière qui ne sont pas très merveilleuses.
Vous dites n'avoir jamais manqué de son amour.
Oui, c'est une affection, je n'ai pas le sentiment d'en avoir... Enfin, à tort ou à raison, mais je crois à raison. Je n'ai jamais eu le sentiment d'en avoir manqué, même si les choses n'étaient pas dites, il semble qu'elles étaient quand même dites d'une certaine manière.
Oui, et c'est peut-être toute l'histoire du livre. J'ai commencé par parler des chemins comme ça, de vagabondage, et je crois que c'est plutôt à la fin du livre, Mathieu Lindon, vous dites finalement, être au travail et se mettre à écrire, c'est aussi donner la possibilité à certaines choses d'entrer qui n'entreront pas demain et qui peut-être ne reviendront jamais, comme s'il y avait aussi dans le processus de l'écriture un processus de convocation, des souvenirs, des figures, des sensations. Par quoi avez-vous été surpris en ouvrant le chantier de ce livre-là après avoir mis tant de temps à le faire ? Au sens de leur intrusion ou de leur entrée dans le chantier littéraire.
Oui, je sais mal vous dire, parce que je fais toujours des livres pour ne rien perdre. J'écris le plus que je peux, j'essaye d'ouvrir le maximum de choses. Je me dis, il sera toujours temps de couper quelque chose, alors que ce qui vient à l'esprit ne reviendra peut-être jamais à l'esprit. Donc allons-y, on verra bien où ça nous mène. Tous ces chemins sont à ouvrir, effectivement, plus il y en a, mieux c'est. Il sera toujours temps d'y retravailler après, de construire un autre itinéraire, un bon itinéraire, parce que en plus, il y a quelque chose que j'adore de travailler sur un livre en ayant déjà énormément de matière, donc en se disant ça va faire un livre, il n'y a pas cette angoisse là de se dire que ça va me péter entre les mains et c'est rien, ça va fondre complètement. Et donc j'ai enlevé énormément de choses à ce livre et je crois que j'ai bien fait. Et donc j'ai pas eu le sentiment de la construction d'un bloc, j'ai pas eu une idée avant de me dire je vais faire comme ça. C'est en avançant, je me suis dit je garde ça, je garde pas ça, je garde ça. Et puis en ayant gardé ça et ça, je me dis mais c'est comme ça qu'il faut l'agencer. C'est ce texte que j'avais fait, qui n'était pas du tout autobiographique dans mon esprit, mais qui l'était profondément, parler aussi d'animaux, alors que je suis toujours apeuré par les animaux, de ce que c'est que d'apprivoiser un être, qu'il soit animal ou humain, et ce que c'est que de le dompter. Et revenu, par exemple, j'avais oublié cette phrase, mais quand ça a été les 40 ans de la loi sur le prix unique en 2021,
mon pour père laquelle ayant... votre père s'est
Il s'était démené, vraiment, c'était son obsession pendant un temps, vraiment son obsession. Parfois, c'était difficile à supporter, c'était son unique sujet de conversation, mais enfin, ça a été un triomphe pour lui. Et son adversaire de l'époque, avec un respect dont je ne me souvenais pas, avait eu cette expression de dire... Lindon, l'indomptable. Et je trouve que c'est très respectueux de parler de son adversaire comme ça. Et ça m'a quand même ouvert un nouveau champ sur ce que je faisais, comme j'avais écrit sur le domptage des dompteurs. Je me disais, mais c'est vrai qu'il y avait cette phrase que j'avais oubliée, mais pas tant oubliée que ça, semble-t-il.
Un père indomptable. Merci beaucoup, Mathieu Lindon. Une archive apparue aux éditions POL. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'enfance, qui peut nous dire quand c'est fini? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien avec de l'imprudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment, de vivre à remonter le temps, de déchirer la fin du livre. L'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants. Nous revoilà jeunes amants, le cœur est plein, la tête est vide. L'enfance.
Au son, c'était Jean-Guy Linmèche ce soir, à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à Noé Margas, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Jeanne Aléos. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Si vous voulez nous envoyer des lettres, on les gardera pour archive. Il y a une petite enveloppe, on est ravis de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé pour quelques semaines encore par Noé Margas. Très belle soirée à toutes et à tous.
L'enfance, il est midi tous les quarts d'heure, il est jeudi tous les matins, les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des Indiens. L'enfance. L'enfant.